Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Axel Mauger.
Aujourd'hui, dans le cadre du 400e anniversaire de la Fondation de Québec par Champlain, nous allons nous tourner vers une page tout à fait importante des relations modernes entre la France et le Québec, et je vais évoquer le lobby du Québec à Paris, sous De Gaulle et après lui, quelques aspects historiques des relations franco-québécoises. Il est vrai que tous ceux qui ont permis le rapprochement du Québec et de la France ne sont pas forcément très connus du grand public. Dans les années 60, souvenons-nous, Charles de Gaulle a obligé le Quai d'Orsay à effectuer un virage à 180 degrés. Phénomène intéressant, c'est du côté québécois, mais aussi de la part des chercheurs du Canada anglais, que sont venus ces coups de projecteur pour éclairer l'histoire de ces militants français favorables à la cause du Québec. C'est notamment un grand universitaire canadien-anglais, Dell C. Thompson, qui a écrit un livre, il a levé le voile sur le rôle d'un groupe de hauts fonctionnaires, de quelques diplomates et de certains hommes politiques français dans l'orchestration de ces retrouvailles. Et le livre s'intitule « De Gaulle », donc de Dell C. Thompson, « De Gaulle et le Québec », édition du Très-Carré, 1990, Montréal. Ce groupe de hauts fonctionnaires a accueilli au moins une quinzaine de personnes. Mais encore aujourd'hui, il faut quand même aussi dire que s'il y a eu ce livre sur cette quinzaine de personnes de hauts fonctionnaires, on n'a pas vraiment encore aujourd'hui, et c'est important, analysé le travail de très nombreux universitaires français installés au Québec ou d'universitaires même québécois installés en France, qui ont beaucoup œuvré eux aussi au rapprochement des deux pays. Et d'ailleurs, on pourrait étendre ce que je viens de ces propos à tous ces patrons qui ont véritablement, depuis les années 60, fait une œuvre considérable au Québec, même dans le domaine économique. Côté québécois, l'ouverture de la Maison du Québec à Paris a été un acte très important, comme par la suite la participation à la création de ce qui allait devenir l'Agence de coopération culturelle et technique, ce qu'on appelle l'ACCT, et l'inscription de hauts fonctionnaires québécois à l'ENA. Toujours côté québécois, un nom à retenir d'un homme important, un des pères de la Révolution tranquille du Québec, c'est-à-dire du début des années 60, après la chute du premier ministre Maurice Duplessis, il faut retenir le nom de Georges-Émile Lapalme, qui a été un des artisans majeurs de l'ouverture de la délégation générale du Québec dans la capitale française. Alors revenons du côté français. Deux hommes, parmi d'autres, mais deux hommes, ont joué des rôles importants. Il s'agit de Philippe Rossillon et de Bernard Dorin. Ce dernier personnage a d'ailleurs découvert tardivement ses racines acadiennes. Toujours Bernard Dorin agira dans l'ombre d'Alain Perfitte et du général de Gaulle. Il laissera, en revanche, à son ami Philippe Rossillon la partie plus audacieuse, lui se réserve le côté diplomatique. C'est auprès d'Alain Perfitte, titulaire de divers ministères sous De Gaulle entre 1964 et 1969, que Bernard Dorin, ce haut fonctionnaire français, exerce l'influence la plus directe en faveur du Québec. C'est à ce titre qu'il reste le programme de la coopération France-Québec réclamé par le général de Gaulle au retour lorsque le général de Gaulle revient de son fameux voyage au Québec en 1967. Avec Bernard Dorin, qui offre l'image, soulignons-le, du parfait diplomate, d'une discrétion totale, mais qui tout de même récemment se dévoile dans son livre qui s'intitule « Appelez-moi Excellence » chez l'éditeur québécois Stanké, Montréal 2001. Donc si lui, Bernard Dorin, se réserve ce côté discrétion du diplomate qui agit comme il faut agir, Philippe Rossillon, de son côté, son ami, fait figure de militant qui n'a pas froid aux yeux. Il sera nommé Philippe Rossillon en juin 1966, à la demande du général de Gaulle, rapporteur général du Haut Comité pour la défense et l'expansion de la langue française. Il remplira sa fonction jusqu'en décembre 1973, donc sous Pompidou. À ce titre, il a porté une attention particulière à la situation de la langue française au Canada, notamment au Québec et aussi en Acadie. autour de lui et de Bernard Dorin, donc autour de Philippe Rossillon et de Bernard Dorin, viennent s'agréger d'autres personnalités comme Jean-Daniel Jurgensen, directeur d'Amérique au Quai d'Orsay, Xavier Degnaud, député gaulliste, et un autre personnage, Martial de la Fournière, conseiller technique au cabinet du ministre de la Défense. Philippe Rossillon avait lancé un mouvement appelé Patrie et Progrès, mouvement complexe comme le personnage d'ailleurs. Comme Dorin, Rossillon est un énarque qui a épousé, il faut le rappeler, Véronique Sédoux, Fornier de Glauzonne, héritière de l'une des grandes fortunes de France, ce qui lui permettra d'être un mécène apprécié, parfois de façon secrète, au Québec, en Acadie et en Haïti. Philippe Rossillon, toujours lui, est un activiste ouvertement favorable à l'indépendance du Québec et ce, il faut le souligner, dès 1963. C'est lui qui organise la visite des Acadiens à Paris le 7 janvier 1968. Après la dissolution du Haut Comité, il est chargé de mission au ministère de la Coopération. Si Perfitte et De Gaulle le considèrent comme un activiste talentueux de la francophonie, Georges Pompidou le perçoit comme un dangereux extrémiste qui nous mettrait à dos la terre entière. Comme quoi, vous voyez, les avis sont très partagés. Le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Maurice Couve de Murville, s'en méfie. Au Canada, autant dire que le premier ministre de l'époque, Pierre-Éliott Trudeau, déclare que Rossillon est un agent plus ou moins secret de la France en territoire canadien. Il n'avait donc pas bonne presse. Il n'avait pas tort, même s'il a dû ajouter plus tard que c'était un agent non secret. Je crois que c'est tout de même lui rendre justice. Retrouver le Québec pour la France n'est pas une mince affaire. Vers la fin de sa vie, Philippe Rossillon, hélas, s'est éteint en 1997. Il s'intéresse beaucoup à la latinité, tout ce qui tourne autour du monde latin. Par exemple, il ouvre en 1985 le cinéma Le Latina et en 1992 Radio Latina. Après sa mort, paraîtra un ouvrage fort intéressant qui s'intitule « 1 milliard de latins » en l'an 2000. Il essayait de voir comment la francophonie pouvait résister à la montée en puissance de l'anglophonie et bien sûr d'autres espaces sans même évoquer le monde sinologue, la sinologie, etc. Pour tout le groupe, ce groupe de hauts fonctionnaires, le Québec représentait une chance fantastique pour la France. Il était fascinant de constater qu'un groupe de Français avait réussi à maintenir une présence en Amérique du Nord, partie donc d'un vaste continent qui, ne l'oublions pas, dominait en partie le monde, je veux dire. Pour eux, il était temps que la France reprenne ses marques dans les Amériques et jusqu'en Amérique latine. De Gaulle croyait que le Québec était un doublement du destin national français. Vaste question, non exempte de certaines naïvetés. Ce groupe, qui a eu globalement raison, n'a, précisons-le, assez peu formé de disciples. On peut le regretter. Les raisons en sont complexes. D'abord, assez vite, les événements se sont accélérés. Le Québec s'est pris en main et ne voulait pas se laisser dicter son destin. On le comprend parfaitement. Précisons que l'idéologie du groupe n'est pas très claire, ni toujours assez mondiale, par exemple par rapport à la francophonie. Visiblement, pour eux, la francophonie a deux composantes essentielles, la France et le Québec. Bien sûr, tout cela évoluera, même chez eux. Il semble que l'Afrique, qui a aussi un grand rôle à jouer, soit un peu oubliée. Question de financement peut-être. Au fond, le manque de clarté idéologique s'explique car le groupe n'avait pas de plan précis. Il était peut-être un peu difficile d'en avoir tant les changements existaient. Il faut dire que le rouleau compresseur américain n'était pas loin. C'est ce qui explique qu'il était difficile, pas impossible, de tracer des plans sur la comète. Comment ce peuple québécois allait-il évoluer ? N'empêche qu'un peuple qui perdait sa langue allait, à partir des années 70, la retrouver, la reconquérir. Au Québec, les membres du groupe rencontrent des personnalités de poids, notamment Jean-Marc Léger, personnalité, il faut bien le souligner, très complexe. Fameux éditorialiste au Devoir. Il rencontre aussi Yves Michaud, un journaliste de talent, Denis Vaugeois, un historien, et le Jacques-Yvan Morin, un professeur de droit international, personnage assez flamboyant à l'Université de Montréal. Du côté français, d'autres personnalités participent aux réunions du groupe, avec donc Bernard Dorin et bien sûr Philippe Rossillon. Pensons à Étienne Burin-Desrosiers, secrétaire général de la présidence sous De Gaulle, François Floïc, son aide de camp, et Gilbert Pérol, le conseiller de presse du général. Tandis que les Québécois se considéraient comme des colonisés, des nègres blancs d'Amérique, les Français ne voyaient pas le combat du Québec comme un combat de décolonisation, mais de développement et de rayonnement de la civilisation dans le monde. Les visions n'étaient pas les mêmes, les perspectives non plus. Pour les Français, le Québec était considéré comme le doublement du destin français, ai-je dit un peu plus haut. Ce qui a handicapé beaucoup plus qu'on ne l'a dit ce groupe de Français brillants, c'est que la plupart des membres du lobby soit n'étaient jamais allés au Québec, soit n'avaient fait qu'y passer. Le seul qui avait une connaissance au départ un peu approfondie du Québec, mais d'un Québec de l'époque de Duplessis, donc juste avant 1960, c'était Bernard Dorin. C'est ce qui explique d'ailleurs qu'Alain Perfitte, fine mouche s'il en était, observateur remarquable, certes influencé par De Gaulle et toutes sortes de personnes, sut garder une approche somme toute habile et passionnée sans l'être trop. Je puis en témoigner puisque je l'ai grandement fréquenté entre 1983 et 1988 et eu d'excellents contacts avec lui jusqu'à, hélas, sa disparition. Ce groupe a peut-être un peu exagéré son importance car avant 1960, le Québec et la France avaient des relations bien moins étroites, certes. Connaît-on aujourd'hui le nom des universitaires québécois qui ont fait leurs études ou une partie de leurs études en France entre 1920 et 1950? Non, ce n'est pas évident. Il serait plus qu'intéressant d'en écrire une synthèse. Et ne l'oublions pas, c'est tout de même en 1859, je dis bien en 1859, que la France a ouvert son premier consulat général à Québec, déjà en 1882, avec Hector Fabre, agent du Québec en France. Ce dernier devient le représentant attitré pour toutes les négociations qui ressortissent aux attributions du gouvernement québécois. N'oublions pas aussi la création en 1926, à l'occasion du passage en France du Premier ministre Alexandre Taschereau, de l'Institut scientifique franco-canadien. Donc il y avait quand même des liens entre la France et le Québec. Nous ne les avons pas inventés en 1960, mais nous les avons d'une certaine façon réinventés. Un autre membre très actif du lobby, Xavier Deniau, figure, personnage bien connu, a écrit un livre tout à fait intéressant dans la collection Que sais-je sur la francophonie. Donc là, au fil des années, après De Gaulle, en se rapprochant du XXe siècle, Xavier Deniau a tenu à embrasser, si j'ose dire, l'ensemble de la francophonie mondiale. C'est tout à son honneur. C'est dire aussi son implication. Jusqu'à sa disparition, il était le président de l'Association francophone d'amitié et de liaison, le sigle est LAFAL, étant LAFAL. De son côté, un autre personnage du groupe, Martial de la Fournière, dans les années 60, a joué un rôle considérable au sein de l'association France-Québec et de Paris-Québec. Il a été également vice-président du Cercle Richelieu de Paris et il s'est éteint en 1994. Tous les autres membres du groupe mériteraient que l'on s'attarde évidemment longuement sur leur parcours. Mais tous sont d'accord. Le vrai déclencheur de la relance des relations franco-québécoises, ce fut le général de Gaulle. Il a été non seulement essentiel, mais constant. De Gaulle envisageait le Québec d'une façon plus nationaliste, question de génération, et peut-être encore plus sentimentale que les membres du lobby. N'oublions pas qu'il avait fait une partie de ses études en Wallonie, parce que les congrégations ayant été expulsées de France par le père Combes s'étaient établies de l'autre côté de la frontière. Il était sans doute aussi sensible aux problèmes wallons que québécois. Il avait dit aux Wallons la même chose qu'aux Québécois, « Le jour où vous prendrez conscience de vous-même, la France sera avec vous d'une seule voix. » Mais le contexte géopolitique et la dimension étaient tout de même différentes et l'attachement de Gaulle, c'était vraiment pour le Québec. On peut dire que De Gaulle pensait d'abord au Québec, aux Français, ce qu'il appelait les Français d'Amérique. Il pensait qu'il y avait au Québec une sorte d'apport direct de la France dans ses œuvres, vives sur cet immense continent. Où le général, on peut dire que le général se trompait tout de même, c'est quand il appelait les Québécois les Français du Canada. Ils étaient devenus assez différents. Le général a-t-il pu s'être forgé une image idyllique du Québec? De Gaulle, en tout cas, De Gaulle privilégiait la liberté collective des peuples. À Québec comme à Montréal, il y a en quelque sorte qu'il y a là une nation et qu'elle doit s'autodéterminer, qu'elle doit être elle-même. Son discours, d'ailleurs, à Lens, au Foulon, lorsqu'il arrive sur, je crois, le Colbert, donc près de Québec, son discours est tout à fait révélateur. Pour De Gaulle, le Québec était un morceau de France et comme le destin de la France comptait pour lui, comme d'ailleurs pour lui comptait bien entendu l'idée de la liberté. Le lobby n'a donc jamais eu à convaincre De Gaulle En revanche, il aurait convaincu Perfitte. C'est sur ces paroles que je termine la première partie de cette émission et j'y reviens bien sûr dans quelques instants.
Un garçon solitaire marchait sans peau, sans fer en revenant du Québec. Quand il vit souriante une jolie passante en revenant du Québec. Elle marchait légère, il se dit j'aimerais faire un bon chemin avec. Mademoiselle en campagne, devenez ma compagne, souffrez que je vous accompagne en revenant du Québec.
Je reprends la deuxième partie de cette émission sur le lobby du Québec à Paris sous De Gaulle et après lui, et j'insiste bien sûr sur quelques aspects historiques des relations franco-québécoises. Alors, nous parlions il y a quelques instants sur le fait que le lobby n'a jamais eu à convaincre De Gaulle. En revanche, il aurait fallu convaincre Perfitte, qui était évidemment intellectuel aussi très sceptique dans certains domaines, etc. Et au départ, il faut bien le reconnaître, Alain Perfitte n'était pas spécialement axé sur le Québec. En 1960, De Gaulle, lors de son voyage au Québec, avait eu l'impression que les Québécois n'avaient pas conscience de l'évolution de la France. Et ça, c'est un grand problème dans les relations entre la France et le Québec. C'est vraiment la connaissance réelle des deux pays que les deux pays ont de l'autre, évidemment. Il ne connaissait pas bien la mentalité des Québécois. Les Français de l'époque ne connaissaient pas bien la mentalité des Québécois. Lors du voyage de juillet 1967, ce n'était pas De Gaulle qui avait changé, c'était le Québec. Son « Vive le Québec libre » était tout sauf de l'improvisation. Lors de ce voyage, on peut supposer que le Canada était informé que quelque chose allait se passer lors de la visite du général, car, il faut bien le reconnaître, l'ambassade du Canada avait quelques oreilles du côté du Quai d'Orsay, c'est évident. Lors de sa visite, revenons à cette visite, le général rappelle la lettre de février 1762 de Voltaire au duc de Choiseul, disant « Et je cite, « Il faut faire la paix à quelque prix que ce soit. Je suis comme le public. J'aime mieux la paix que le Canada et je crois que la France peut être heureuse sans Québec. » Cette phrase du général de Gaulle en était une de réconciliation. C'est le général de Gaulle qui a ressoudé les relations entre le Québec et la France aujourd'hui. Il a voulu faire oublier cette lettre dévastatrice. Ambiguïté canadienne au balcon. De Gaulle, on se souvient du voyage extraordinaire, au balcon de l'hôtel de ville de Montréal, De Gaulle souriait beaucoup plus que René Lévesque. Lévesque confie, et avant de devenir Premier ministre, il confie « Ouais, il va un peu vite ». Personne, le Premier ministre du Canada, lui de son côté, en entendant De Gaulle, a été choqué. Mais il a compris que si on répondait trop fort, trop vivement à la France, le Québec basculerait du côté de De Gaulle. Au fond, celui qui a gardé la tête la plus froide, c'était Lester B. Pearson. De Gaulle n'a pas voulu punir le Canada, comme certains le croient, parce que le Canada n'aurait pas voulu vendre de l'uranium ou acheter des caravelles, des avions caravelles. Non, ce qui était important, c'était le Québec. De Gaulle aimait la foule, cette foule de Canadiens français. Force de l'histoire, il faut aussi insister sur la force de l'histoire. Les liens entre la France et le Québec reprenaient de plus belle. Et la force du rêve, le rêve du français dans le monde, bien entendu. Le voyage de De Gaulle a été un révélateur et un déclencheur pour les gens d'Ottawa, donc la capitale du Canada. Le Canada s'est mis à développer ses relations aussi bien avec la France qu'avec les pays francophones. La francophonie est devenue un objectif. J'ajoute aussi quelques confidences du général à l'époque. De Gaulle a dit de M. Paul Gérin-Lajoie, donc ce personnage très important pour les relations franco-québécoises modernes, je cite, il est fin, il est délicat, il voit loin. En revanche, il a été vraiment désappointé, si vous voulez, par le Premier ministre Daniel Johnson, avec qui il avait fait cette randonnée triomphale sur le chemin du roi de Québec à Montréal. De Gaulle a dit, je cite, il a l'air de traîner les pieds. Fin de la citation. Johnson avait des réflexes québécois très profonds, des réflexes de prudence. N'oublions pas que le Conseil des ministres de Jean le Sage, qui était fort de 23 membres, eh bien sur ces 23 membres, environ 18 d'entre eux étaient indifférents ou peu favorable à l'idée de relations suivies avec la France. Donc il faut se rendre compte de tout ce qu'il fallait mettre de côté pour avancer. Même chose pour le cabinet de Johnson après celui du Premier ministre Jean Lesage. L'opinion publique québécoise n'était pas non plus toujours acquise à ses idées. Daniel Johnson, qui avait plus de flair politique que Lesage, y était particulièrement sensible. Livre de Johnson, Égalité ou indépendance. Alors, je vous conseille aussi, avant que de continuer, de lire un livre tout à fait intéressant et qui m'a, bien entendu, que j'ai lu très attentivement. Il s'agit du livre qui s'intitule « Le lobby du Québec à Paris, les précurseurs du Gérald de Gaulle » par Paul-André Comeau et Jean-Pierre Fournier aux éditions Québec-Amérique en 2002. Alors, je reviens à, bien sûr, Johnson, au Premier ministre Daniel Johnson. Il avait une vision personnelle du Québec. Mais quand De Gaulle s'amène avec une pensée et des visées différentes des siennes, il renverse tout De Gaulle. Les anglophones croient que Johnson était de connivence avec le général, or ce n'était pas le cas. J'ajouterai, alors, pour continuer, grâce à Alain Perfitte, la coopération a marché entre la France et le Québec. Et Bernard Dorin, donc un de ses membres très importants et influents du lobby, a écrit 25 propositions, dont 20 ont été reprises dans les accords finaux, les accords de 1967. Par exemple, l'envoi de fonctionnaires québécois à l'ENA, ce fut une initiative personnelle de Philippe Rossillon et de Bernard Dorin, ce qui a permis à des stagiaires québécois de vivre de l'intérieur l'expérience française. Ce contact avec la jeunesse québécoise se développera plus tard avec l'Office franco-québécois. Lors du 10e anniversaire des accords de 1967, c'est-à-dire en 1977, le président Valéry Giscard d'Estaing a demandé à Perfitte de stimuler les accords qui avaient tendance à s'essouffler. Il faut quand même rappeler, pour la bonne histoire, que le président Giscard d'Estaing avait trouvé que le Gérald de Gaulle y était allé un petit peu fort en 1967 en criant « Vive le Québec libre !» Bon, bref, mais comme on le voit, avec le temps, tout revient dans l'ordre, si j'ose dire. Donc, on peut aussi dire que dès la fin des années 70, il y avait peut-être un petit peu un manque de créativité dans les relations franco-québécoises. Peu d'analyses, d'ailleurs très fortes, ont été écrites entre 1980 et l'an 2000. Il y a eu bien sûr que tout de même les responsables inventent une rencontre annuelle des premiers ministres français et québécois. Et nul autre que Jacques-Yvan Morin, dont j'ai parlé tout à l'heure, excellent professeur de droit international à l'Université de Montréal, souligne le succès de cette relance. La coopération économique a eu moins d'écho dans les médias que la coopération politique, mais elle n'en a pas moins été réelle. Elle s'est amorcée dès le début des retrouvailles avec la France. De Gaulle, il faut bien le dire, était au courant des moindres détails des dossiers économiques. Bernard Dorin n'a guère eu à voir avec la partie économique de la coopération franco-québécoise, qui fut pourtant très importante, mais plutôt avec son volet politique. Ce qui a été remarquable justement dans le domaine de la coopération franco-québécoise, c'est la continuité des rapports d'un régime de gouvernement à l'autre, c'est-à-dire, on peut le souligner, de Gaulle à, bien sûr, Jacques Chirac. Si en France, c'est De Gaulle qui a en quelque sorte violenté la conscience publique, au Québec, on a au contraire le sentiment que c'est M. Daniel Johnson, qui a freiné, influencé par ce qu'il croyait être les réticences de son propre pays. Le changement de climat est dû en partie dans les relations franco-québécoises. On peut aussi ajouter que le changement de climat est dû en partie à l'Office franco-québécois pour la jeunesse et aussi à la multiplication en province des sections de l'association France-Québec, fondée par Philippe Rossillon, Alain Perfitte, Xavier Degnaud, Bernard Dorin et quelques autres. Alors, en conclusion pour cette grande période, si vous voulez, des retrouvailles franco-québécois, eh bien, il faut reconnaître que sous tous les régimes, aussi bien au Québec qu'en France, certaines personnalités feront tout pour que ces relations restent solides, très amicales, dynamiques et pas toujours, il faut bien le reconnaître, assez créatrices. Mais enfin, l'administration est ce qu'elle est. N'oublions pas tout de même certains aspects très positifs, c'est que le duo franco-québécois a contribué puissamment à la francophonie, il faut bien le dire. Aujourd'hui, on peut quand même regretter que si les étudiants français vont beaucoup au Québec, les étudiants québécois viennent moins en France. Bon, c'est un aspect. Ensuite, des chercheurs comme une universitaire comme Anne Légaré déplore de son côté la désaffection des Québécois d'aujourd'hui pour la France. Bon, peut-être que maintenant, les relations ont repris, je dirais, un courant naturel, etc., etc. Alors, le Québec, il faut aussi le reconnaître, en se modernisant, s'est éloigné du modèle ancien offert par la France. Problème aussi, ne l'oublions pas, nous sommes en 2008, problème de la jeunesse des deux pays qui est souvent coupée ou se coupe volontairement de ses racines. Elle a tendance à faire table rase du passé. Elle s'intéresse moins à l'histoire que d'autres générations pouvaient peut-être s'y intéresser. En tout cas, aujourd'hui, nous arrivons à une nouvelle période, bien sûr, des relations entre la France et le Québec, au XXIe siècle, au moment où nous fêtons les 400 ans de relations entre la France et le Québec. Je crois que l'avenir est tout à fait prometteur pour les deux pays et pour cette coopération qui va, espérons-le, être encore plus dynamique, bien entendu.